Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Benjamin Lucas, porte-parole de Génération. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Emmanuel Macron a effectué un déplacement de 2 jours à Amiens, sa ville natale. Il se trouve que c'est également votre ville natale, Benjamin Lucas. 1 an après le mouvement des Gilets jaunes, le chef de l'État veut apparemment casser son image de président déconnecté en allant sur le terrain. Une visite hautement symbolique dans cette ville, puisqu'on se souvient aussi des salariés de Whirlpool. Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron a tiré les leçons de la crise des Gilets jaunes 1 an après ?
Moi, j'aimerais qu'il casse sa déconnexion, pas l'image de déconnexion. Et de ce point de vue-là, c'est pas de la communication qu'il faut. Vous posez la question sur les Gilets jaunes. Pendant 1 an, les Gilets jaunes ont demandé à Emmanuel Macron quoi ? Le partage de la richesse, la possibilité de vivre dignement de son travail, la possibilité de ne pas être laissé seul dans la souffrance quand on n'est pas au travail, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron ? Il a fait la réforme de l'assurance chômage qui plonge dans la précarité et dans la difficulté des millions de chômeurs. Il prépare une réforme des retraites qui est le plus grand plan d'appauvrissement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas répondu au fond du sujet qui est le partage de la richesse. Il n'a pas rétabli l'ISF, il n'a pas engagé une grande réforme fiscale juste, il n'a pas augmenté les salaires et notamment le SMIC. Donc, en 1 an de gilets jaunes, j'allais dire, les réponses n'y sont pas. Et cette déconnexion, elle vient de là. Elle vient pas d'une image, d'un déracinement, je ne sais quoi ou ce que je peux lire. C'est pas parce qu'il va à Amiens très bien, tant mieux, pendant 2 jours que ça va changer quoi que ce soit. C'est la politique, c'est le fond de la politique qui est déconnecté aujourd'hui de ce qu'attendent nos concitoyens.
Vous soutenez donc la grève des syndicats de cheminots et de la RATP le 5 décembre contre la réforme des retraites. Vous dites que c'est le plus grand plan d'appauvrissement des Français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Moi, je crois qu'il y a, oui, il y a, alors, on pourrait faire une émission entière sur la réforme des retraites, mais la retraite par points, elle était très bien décrite par François Fillon, qui est visiblement devenu le modèle de M. Macron, qui disait que c'est un moyen de baisser les pensions.
Vous êtes en train de dire que les Français ont voté Emmanuel Macron pour ne pas avoir François Fillon, et finalement, ils se retrouvent avec le programme de François Fillon ?
Il y a un peu de ça, en tout cas, ils ont...
Il y a beaucoup de gens de gauche qui ont tout de même voté pour Emmanuel Macron.
Oui, mais je crois qu'ils en sont aujourd'hui déçus, et ils voient bien que Emmanuel Macron, il fait finalement ce qu'est le deuxième quinquennat Sarkozy, ou le troisième quinquennat Sarkozy-Hollande. Sur le code du travail, c'est toujours les mêmes attaques, sur la précarité, c'est toujours la même politique qui est menée. Donc on voit bien aujourd'hui que de ce point de vue-là, il y a une grande continuité. Emmanuel Macron se voulait être une rupture, un nouveau monde, et en réalité, on a gardé ce qui est le pire de l'ancien monde. Et puis vous avez aussi une part des gens comme moi, qui au second tour ont voté pour lui pour faire barrage à l'extrême droite, pour garantir la concorde républicaine dans notre pays, pour éviter des débats nauséabonds sur l'immigration, sur l'AME, la stigmatisation sur le voile, etc. et qui se retrouve avec ces débats-là et cette république fracturée, des gilets jaunes qui sortent mutilés de manifestations, donc une république en lambeaux. Donc, de ce point de vue-là, qu'on ait voté Emmanuel Macron au premier ou au second tour, on ne peut aujourd'hui qu'être déçu, sauf si on était vraiment de droite.
En même temps, si ça devait se reproduire en 2022, vous voteriez à nouveau pour Emmanuel Macron pour faire barrage au Front National, Rassemblement National.
Le sujet, c'est pas moi, parce que moi, ma règle éthique, ma règle philosophique, mon engagement moral depuis que je fais de la politique, c'est face à l'extrême droite, n'importe qui. Quand j'ai le choix. Évidemment, jamais au premier tour, mais au second tour, si les règles électorales font que je suis face à un duel entre quelqu'un de droite, n'importe quelle droite, et l'extrême droite anti-républicaine, raciste, xénophobe, je choisis n'importe qui. Mais la question, elle est pas moi, elle est qu'aujourd'hui, vous avez des millions de Français qui ne feront plus ce choix-là, justement parce qu'ils l'ont fait cette fois-ci en disant c'est la dernière fois, et on ne peut pas tout faire.
Et donc, il y a un risque,
bien.
Et donc il y a un risque d'avoir
moi, je crois qu'il y a un vrai risque, parce que
au
aujourd'hui, ce pouvoir, il abîme la démocratie. On voit la démocratie, elle s'effondre partout dans monde. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. Vous voyez l'état dans lequel est l'Europe. Vous voyez la progression de Salvini, etc. Aujourd'hui, la démocratie, elle peut s'écrouler partout. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'écroule pas non plus en France. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut que la gauche et les écologistes soient au rendez-vous en 2022. Parce que si le match est Macron-Le Pen, dans les deux cas, on est perdant. Et dans le cas d'une victoire de Le Pen, c'est la République entière qui serait perdante.
On parlera de la gauche tout à l'heure, Benjamin Lucas. Je reviens à la réforme des retraites. Je vous avais interrompu tout à l'heure. Vous soutenez clairement cette grève, les cheminots ont raison de lancer un mouvement de grève reconductible ?
Oui, je crois qu'il est important qu'il y ait une mobilisation. Moi, je sens partout, vous citiez Amiens, chez moi ou ailleurs, une vraie volonté que cette réforme ne passe pas chez nos concitoyens, qui va au-delà des militants syndicaux et politiques que nous sommes. Donc je crois que cette grève, elle est l'expression d'un sentiment partagé dans le pays sur une réforme injuste qui est injuste dans ses modalités. On n'a pas beaucoup de temps, donc on peut pas forcément en faire le détail, mais j'en citais tout à l'heure quelques-uns sur la valeur du point, sur le voilà, mais aussi sur le fait qu'on limite à un certain seuil du produit intérieur brut. Il faut bien que nos auditeurs comprennent. En gros, les retraites, elles ne devront pas dépasser un certain pourcentage de la richesse française, du PIB français. Donc ça veut dire que la variable d'ajustement, ce sera nos pensions, ce sera nos retraites.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un retraité sait combien il aura à la fin du mois. Avec cette réforme, c'est un saut dans l'inconnu.
Ah, je pense. Bon, en tout cas, on n'a pas encore toutes les réponses du gouvernement, puisqu'il joue un peu au chat et à la souris, parce qu'il y a des élections municipales, sans doute. Donc, il évite de nous donner toutes ces pistes. Mais il y a aussi, je pense que c'est le plus important sur la question des retraites, une vraie question philosophique. C'est l'argument d'Emmanuel Macron. Il n'est pas nouveau. C'est l'argument qu'employait Sarkozy et même qu'employait malheureusement certains au Parti socialiste quand ils étaient au pouvoir, qui est de dire parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Et moi, je m'inscris en faux contre ça, parce que si on vit plus longtemps, c'est parce que la science, la médecine, l'humanité fait des progrès. Et ce progrès, je pense qu'il doit être partagé. Moi, je suis un partageux. Et donc, si on vit plus longtemps, bien on doit pouvoir profiter de la vie plus longtemps. Et en plus, on voit bien, et des études l'ont démontré, que quand on travaille plus longtemps, on vit moins longtemps parce qu'on s'abîme au travail, parce que le travail est parfois surtout une souffrance. Et en plus, quand on a le taux de chômage que nous avons dans notre pays, peut-être qu'il faut penser à partager le travail plutôt qu'à prolonger le temps de travail, la durée de travail de ceux qui travaillent déjà.
Et il y a aussi la question des salariés âgés qui souvent se retrouvent au chômage, et donc mécaniquement, ils se retrouveraient finalement à gagner beaucoup moins.
Oui, cette réforme, elle va faire ça. Elle va augmenter la précarité des plus âgés et elle va augmenter le chômage des seniors. Donc, elle n'apporte aujourd'hui aucune réponse, si ce n'est des réponses très idéologiques. Hein. C'est la droite ligne de ce qu'était François Fillon dans l'élection présidentielle et avant, qui est une vision idéologique aujourd'hui de l'économie qui ne fonctionne pas. C'est les années 80, c'est le libéralisme de Margaret Thatcher. C'est pas le nouveau monde qu'on nous avait promis.
Alors, vous souhaitez une grève dure comme en 1995. On se souvient qu'Alain Juppé, à l'époque, était resté droit dans ses bottes. Et puis, il avait fini par céder.
Moi, je suis un responsable politique. J'ai pas à souhaiter ou pas souhaiter une grève dure ou pas dure. Ça, c'est la liberté des organisations syndicales. Ce que je sais, c'est que Emmanuel Macron va être confronté, oui, à une vraie dureté sociale. Je ne sais pas quelle forme elle va prendre. Moi, comme tout le monde, j'avais pas prévu les gilets jaunes. Donc, je ne sais pas quelles vont être les formes de mobilisation qui vont s'exprimer dans le pays dans les mois qui viennent. Ce que je sais, c'est que j'étais à la manifestation des soignants la semaine dernière. J'ai vu beaucoup de monde et que la colère, elle est très grande dans notre pays. Donc, oui, en tout cas, il faudra que nos concitoyens, moi, je les appelle d'une manière ou d'une autre, en faisant la grève, en manifestant, en rejoignant des mouvements politiques, en participant à des réunions publiques, j'appelle nos concitoyens à se mobiliser pour faire entendre au gouvernement la voix de la raison et la voix de la justice et de la dignité sur cette question des retraites, comme sur celle du chômage. Alors, sur celle des services publics, par exemple, avec l'aéroport de Paris et les signatures de la pétition.
La difficulté pour un gouvernement, c'est quand une grève est populaire. Vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait un soutien, même si chacun va être impacté dans sa vie par cette grève, parce que effectivement, il y a des gens qui risquent de se retrouver au chômage technique.
C'est le principe d'une grève. Une grève, ça a forcément une incidence économique et sur la vie quotidienne. Moi, je crois que ces grèves, elles seront populaires parce qu'il ne s'agit pas de défendre des intérêts sectoriels. Il s'agit de défendre nos retraites, la retraite de tout le monde. Il s'agit de défendre notre modèle social. Moi, je crois que le plus beau patrimoine qu'on ait dans notre République, c'est notre modèle de protection sociale. C'est ce qui fait la richesse de la France. C'est ce qui fait qu'elle est enviée dans le monde. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Vous avez dans la campagne des démocrates pour leur primaire face à pour affronter Donald Trump, la France, le modèle français érigé en modèle par des candidats qui sont aujourd'hui parmi les favoris. Donc c'est une richesse. Je vois pas pourquoi nous on s'obstine à être dans un modèle anglo-saxon des années 80 qui est dépassé. Et encore une fois, moi je le dis à nos concitoyens qui seraient excédés un jour de grève, qui est-ce qui est responsable de la grève? Qui est-ce qui est fautif? Ce n'est pas le salarié qui fait grève et qui d'ailleurs perd lui aussi du salaire, du pouvoir d'achat qui préférait sans doute aller travailler et être payé, hein, pour qui ça coûte quelque chose. C'est le gouvernement, c'est le pouvoir en place qui n'ouvre pas la concertation et le dialogue sur ce sujet.
Benjamin Lecas, vous avez parlé tout à l'heure de la marche des soignants. Le gouvernement a décidé de reprendre une partie de la dette des hôpitaux. Il y aura également une prime pour les personnels. Est-ce que c'est un premier pas qui vous satisfait ou bien ce plan d'urgence est très en deçà des besoins des personnels soignants?
C'est un pansement. L'hôpital aujourd'hui est malade. Et donc une maladie grave, parce que c'est ce que nous ont dit les soignants. Ils ne nous ont pas demandé, les soignants, à être... Parce qu'on voit bien, là, dans les annonces du gouvernement, il y a une volonté de diviser les régions entre elles, les soignants entre eux, diviser pour mieux régner. Là, c'est diviser pour mieux casser l'hôpital public. Ils nous ont demandé, pas des privilèges, pour eux-mêmes. Les soignants nous ont demandé la possibilité, la dignité pour nous soigner, nous, citoyens de ce pays, d'avoir des moyens, d'avoir un, voilà, un hôpital public qui soit à la hauteur de, des attentes légitimes que nos concitoyens mettent en lui. Et aujourd'hui, ces quelques petits pansements-là, ils ne résolvent absolument rien. Le gouvernement, aujourd'hui, chaque année, alors ça date pas de ce gouvernement-là, faut pas lui l'accabler, mais en tout cas, il avait été promis sur une promesse de changement, donc prenons-le au mot. Mais chaque année, nous votons un budget de l'hôpital public, de la santé publique, qui est en dessous de ce qu'il faudrait pour que l'hôpital assure correctement ses missions dans de bonnes conditions. Il y a par exemple, vous savez, moi je connais des étudiants en médecine, je trouve que mon petit frère est étudiant en médecine, mais vous avez des internes, qui, là, un interne sur deux, qui fait chaque semaine plus de temps de travail que la réglementation l'y autorise. Parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de personnel, etc. Et donc ça veut dire que vous mettez des internes et des soignants en souffrance, et que vous mettez des patients en danger. C'est ça aujourd'hui la réalité.
C'est quand même ce gouvernement qui a ouvert le numerus clausus. Il y aura plus de médecins à l'avenir, ce qu'aucun gouvernement n'avait fait jusqu'à présent.
Oui, et ça c'est bien. C'est une mesure qui est bien, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Est-ce que les finances publiques permettraient d'embaucher davantage de personnel à l'hôpital? Est-ce qu'on a de l'argent?
Mais moi je crois, ça c'est toujours le débat. Oui, on a de l'argent, de la richesse, il y en a.
Il faut la prendre à qui cette richesse?
Il faut la prendre. Aujourd'hui, on a vu, vous savez, il y a une émission de France 2, je crois que c'est Cache Investigation, il y a quelques heures,
sur le CICE,
qui a démontré qu'on avait fait des cadeaux de dizaines, de centaines de milliards d'euros aux entreprises sans aucune contrepartie. Donc des cadeaux.
Oh, François Hollande, le gouvernement avec François Hollande. Que vous aviez soutenu à l'époque.
Non, mais j'étais d'ailleurs même venu sur votre antenne m'opposer, notamment au CICE, comme à la loi travail ou à la déchéance de nationalité. Donc on voit bien que de l'argent et des milliards, il y en a. On voit bien qu'aujourd'hui, on peut aller chercher dans ce qu'est l'ultra richesse de certains, des moyens de répartir. Moi, je suis pour répartir, pour partager la richesse. Et puis des choix qui coûtent cher, et il y en a qui ont été faits. Enfin, supprimer l'ISF, ça a coûté très cher à nos concitoyens. C'est un choix qui a été fait par le gouvernement. Donc les finances publiques, elles sont au service d'une volonté politique. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la volonté politique n'est pas là. En tout cas, elle est de protéger un camp plutôt qu'un autre.
Benjamin Lucas, après l'immolation d'un étudiant à Lyon, Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a exclu de revaloriser les bourses, mais elle va créer un numéro d'appel qui favorisera l'accès aux aides d'urgence. Est-ce que cette réponse vous paraît suffisante?
Moi, il me semblait qu'avait été nommée au gouvernement Madame Vidal et pas Nabila. Vous savez, allô quoi. Franchement, la réponse à un drame terrible qui a frappé chacun, quelles que soient ses convictions politiques, les consciences de chacun, que la réponse du gouvernement à la précarité d'étudiants qui aujourd'hui, pareil, ne demandent pas à devenir des milliardaires, c'est pas le rêve de Monsieur Macron là qu'ils veulent réaliser. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir étudier dignement. Et toute la société a besoin qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. C'est la matière grise de demain. Ce sont les emplois de demain. C'est la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui cumulent des petits boulots, qui doivent choisir entre étudier ou se loger, étudier ou manger, se soigner ou manger, etc. Bon, et que la réponse ce soit ça, et comme d'habitude ce soit, il n'y a pas d'argent magique, ou c'est pas un problème d'argent, bah si, c'est un problème de pognon à un moment donné, parce que quand on n'a pas les moyens de se nourrir correctement à la fin du mois, on peut pas étudier. Donc la réponse de Madame Vidal, elle est d'un cynisme insultant pour toute la jeunesse.
Le problème.
Et j'ajoute par ailleurs, pardon, excusez-moi, que le gouvernement, il a trouvé de l'argent pour un gros gadget qui est le service national universel, qui est une espèce de service militaire new look, qui en réalité considère que les jeunes seraient moins républicains, moins attachés aux valeurs que les générations précédentes, ce qui est complètement faux, et que donc il faudrait les contraindre au lever de drapeau ou à je ne sais quoi. Mais à l'argent du SNU, on pourrait le mettre aujourd'hui dans la revalorisation des conditions de vie des étudiants, et notamment des étudiants les plus précaires.
Le problème des étudiants, c'est qu'ils sont contraints de travailler tout en poursuivant leurs études, et surtout, il leur faut trouver un logement. Comment résoudre la question du logement des étudiants? Parce que là, c'est pas seulement une question de bourse, c'est aussi une question d'accès au logement quand on n'a pas les moyens.
Oui, alors moi je suis favorable à l'encadrement des loyers. Hein. Vous le savez, c'est une mesure qui est efficace, qu'il faudrait sans doute renforcer. Elle a été remise en cause ces dernières années, alors que c'était une bonne mesure. Je suis favorable aussi, mais ça va au-delà. Il faut des moyens. Donc moi, la proposition de revenu universel qui garantirait l'autonomie.
J'allais y venir.
Bon, on en parlera. Mais voilà une réponse notamment pour les jeunes. Mais oui, il faut encadrer aujourd'hui les loyers. Et puis il faut que la puissance publique, les collectivités, l'État retrouve un rôle moteur en la matière, construisent des logements, permettent à des jeunes, voilà, qu'on ait plus de résidences universitaires. Voilà, il faut que c'est toute la société qui doit se mobiliser pour l'avenir de sa jeunesse. Qu'on se comprenne bien, une société qui abandonne ses étudiants, c'est une société qui finalement est en déclin. C'est une société qui ne s'aime plus elle-même parce qu'elle n'a plus confiance dans sa jeunesse. Je crois que nous devons investir massivement aujourd'hui pour la priorité à la jeunesse.
Qu'est-ce que vous avez pensé de certaines actions des étudiants, notamment qui ont saccagé une petite librairie installée dans un amphithéâtre qui devait accueillir François Hollande?
Bon, il y a une tradition dans ce pays, et notamment dans les universités, d'une certaine radicalité. Moi, c'est pas ma façon de faire. Mais vous savez, les gilets jaunes, c'était pas ma façon de faire non plus. C'était pas mes codes, c'était pas mes habitudes. Et pourtant, ça a apporté beaucoup à ce pays. Donc moi, je ne cautionne pas, je ne soutiens pas. Et même, je déplore, je regrette qu'on s'en prenne à des livres. C'est pas un beau symbole. Je pense que ça dessert la cause de ceux qui ont voulu manifester. Et en même temps, il y a une action collective, elle s'exerce. C'est dommage qu'elle s'exerce de cette façon-là, mais il faut entendre le message de colère qui est donné par ces étudiants.
Et finalement, quand on est trop gentil, avec beaucoup de guillemets, est-ce qu'on est entendu le message des gilets jaunes? Est-ce que ça n'a pas été finalement que quand vous faites peur au pouvoir, le pouvoir vous entend?
C'est bien le problème, c'est que Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, en étant le parfait héritier de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, a méprisé les corps intermédiaires, ceux que vous appelez les gentils, c'est-à-dire les syndicats, qui par ailleurs sont attaqués et vilipendés dès qu'il y a une grève. Mais Emmanuel Macron n'a pas écouté le mouvement syndical dans ce pays. Les partis politiques n'en parlent même pas. Il a construit toute son ascension politique sur l'idée qu'il allait broyer les partis politiques et les corps intermédiaires, mais même le Parlement. Regardez aujourd'hui le nombre de députés En Marche qui ne viennent plus, qui ne participent plus aux travaux de l'Assemblée nationale. Il y en a un toutes les semaines qui quitte le groupe de la majorité, etc. Ça prouve bien qu'aujourd'hui le Parlement ne joue même pas son rôle de pouvoir, même pas de contre-pouvoir, de pouvoir politique.
Benjamin Lucas, vous avez évoqué tout à l'heure le revenu universel. C'était la grande proposition de Benoît Hamon lors de la présidentielle. Alors Benoît Hamon n'a pas réussi à être président de la République, mais son idée, elle reste toujours d'actualité.
Oui, je pense que c'est une réponse moderne et audacieuse à ce que sont les urgences du présent. On parlait tout à l'heure, la précarité des étudiants, il faut garantir leur autonomie, la précarité tout court, les difficultés à vivre, et puis les grands défis du futur, notre rapport au travail, le fait qu'il faut renforcer aujourd'hui notre protection sociale. Je crois qu'il faut écrire une nouvelle histoire de la protection sociale, non pas en la cassant comme veut le faire Macron, mais en l'enrichissant de nouvelles conquêtes pour demain.
Le revenu universel, ça pourrait permettre, par exemple, de lutter contre l'ubérisation, puisque on oui. parle des étudiants, mais ces jeunes qu'on voit à vélo, qui distribuent des repas pour quelques euros, ce sont souvent des étudiants.
Oui, bien sûr. Je disais tout à l'heure sur la question effectivement du sort des étudiants, le revenu universel est une réponse qui garantit la dignité et donc qui permet à la fois de valoriser ce qu'on fait dans la société qui n'est pas marchand, parce qu'on peut travailler sans avoir une activité d'emploi telle qu'elle est classiquement admise, et puis parce que je crois qu'aujourd'hui, par ailleurs, il faut partager le temps de travail. C'est là aussi, quand on parlait des questions du chômage, on ne s'en sortira pas si on ne partage pas le temps de travail. Ceux qui pensent qu'on va atteindre le plein emploi par le retour de la croissance à deux chiffres, cela croit au Père Noël.
Est-ce qu'il faut que les autres partis politiques s'emparent de cette idée pour finalement gagner la bataille des idées? Parce que pour l'instant, ça reste quelque chose qui n'est pas pris au sérieux, le revenu universel.
Oh, ça l'est de plus en plus. D'abord, dans les enquêtes d'opinion, le revenu universel, il progresse d'année en année.
Vous savez, quand vous interrogez les décideurs politiques, ceux qui sont actuellement au
pouvoir.
Pareil,
je regarde ce qui se passe. Je suis avec beaucoup d'intérêt, vous l'aurez compris, la campagne des primaires démocrates aux États-Unis. Il y a un candidat qui parle du revenu universel, qui est considéré comme sérieux et crédible. Et moi, je crois que comme toutes les belles grandes idées, oui, au début, elle bouscule. Une idée audacieuse, mais comme une personnalité audacieuse, au début, elle inquiète, elle trouble. On la regarde parfois un peu avec mépris. Et puis, à un moment donné, elle s'impose parce qu'elle est une réponse moderne. Et je pose une question sur ce sujet-là, c'est quelle est aujourd'hui l'idée nouvelle qui permet de repenser notre protection sociale, qui permet de l'enrichir? Il n'y en a pas d'autre. Toutes les réponses qui sont données aujourd'hui en matière économique, sociale, d'Emmanuel Macron ou même d'une autre partie de la gauche, et de la droite encore plus, ce sont des idées du siècle passé. Le revenu universel, c'est la grande idée du siècle dans lequel nous sommes, c'est la grande idée des décennies qui viennent. Et c'est quand même dramatique que notre vie politique n'est plus, même quand on est d'accord ou pas d'accord, mais n'est plus au cœur de ces débats des grandes idées nouvelles, et qu'on en soit encore à des vieilles recettes et des vieilles lunes libérales qui ont fait la démonstration de leur échec.
Guillaume Pelletier, qui est un jeune des Républicains, propose carrément d'abolir les charges salariales.
Moi, je parle pas de charges, moi je parle de cotisations, parce que c'est du salaire brut. Les cotisations, c'est ce qui vous permet bien de bénéficier de votre chômage, c'est ce qui permet de bénéficier de la retraite, etc. Moi, je suis favorable aux cotisations salariales. Je pense qu'il faut augmenter les salaires. Il faut augmenter les salaires bruts et nets, et qu'il ne faut pas comme ça mettre en concurrence dans le salaire les cotisations, le salaire direct et le salaire différé. Je pense que c'est pas une bonne chose. Mais bon, il est de droite, je ne lui en fais pas le reproche.
L'invité de Pluriel est Benjamin Lucas, porte-parole de Génération. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Benjamin Lucas, porte-parole de Génération. Alors, le 6 novembre dernier, le gouvernement a confirmé que la protection maladie serait réduite de 12 à 6 mois pour les personnes déboutées du droit d'asile et les sans-papiers, et prévu également l'instauration d'une période de carence de 3 mois pour l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Je crois que c'est une des mesures du gouvernement Macron qui vous a le plus choqué.
Moi, je suis indigné parce que quand un gouvernement fait de l'étranger le bouc émissaire, parce que c'est ça que ça veut dire, quand un gouvernement joue à ce point avec la santé publique, uniquement par intérêt électoraliste et pour alimenter son match, son duel du haut avec Marine Le Pen et l'extrême droite, c'est dangereux pour notre démocratie et c'est dangereux pour la République. Moi, je crois que c'est indigne. Et tout cela me fait dire une chose quand même. Quand on voit la loi Asile et Immigration de Gérard Collomb, quand on voit les propos sur le benchmark de l'asile, vous savez, quand des ministres ont dit qu'il y avait une comparaison, qu'en gros, les migrants, avant de quitter la guerre ou la misère, faisaient des études de droit social comparées pour savoir dans quel pays immigrer, etc. Tout ça me fait dire quand même que, malheureusement, j'ai le sentiment qu'on a au ministère de l'Intérieur, et parfois dans d'autres ministères, la même politique que si Marine Le Pen avait été élue. Et je le regrette parce que je crois que ce sont des républicains, mais qu'ils jouent à un jeu très dangereux pour notre République et notre démocratie.
Pourquoi estimez-vous que c'est une mesure électoraliste à quelques mois des élections municipales? Vous avez le sentiment qu'un calcul, que les électeurs de droite vont voter peut-être pour Emmanuel Macron, pour les candidats de La République En Marche, parce qu'il y a ces mesures sur l'immigration?
C'est peut-être leur intérêt. Moi, je pense que ça ne marche jamais. L'histoire entière a démontré que quand on allait chasser sur les terres de l'extrême droite, on avait et la défaite et le déshonneur. Mais on l'a vu avec les déchéances de nationalité, hein, qui était une proposition historiquement portée par l'extrême droite. Est-ce que ça a bénéficié à Manuel Valls et à François Hollande? L'un n'a pas pu être candidat à l'élection présidentielle, l'autre a été balayé à la primaire de son propre camp. Donc, objectivement, ces réponses-là ne marchent pas. On ne combat l'extrême droite qu'en la combattant d'abord dans les esprits, pour pouvoir gagner contre elle dans les urnes, et en défendant nos valeurs avec conviction et force. Moi, je ne crois pas que nos concitoyens soient racistes par nature. Je ne crois pas qu'il y ait une majorité de racistes dans ce pays. Mais je crois que quand la classe politique n'est pas à la hauteur des valeurs de notre République, malheureusement, elle laisse prospérer les thèses de l'extrême droite.
Qu'est-ce que vous dites aux Français, justement, qui ont des propos anti-immigrés et... On les voit s'exprimer notamment sur les réseaux sociaux. Vous lisez les commentaires sur Facebook, sur Twitter. Qu'est-ce que vous avez comme argument pour les convaincre?
Moi, je crois que d'abord, qu'en démocratie, toutes les paroles ne se valent pas. La parole de Monsieur Zemmour ne vaut pas la parole de n'importe qui d'autre, parce que c'est une parole raciste, et que le racisme, la haine, ne font pas partie du corpus des valeurs de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas dire de façon objective que tout se vaut, et que l'opinion d'un raciste vaut l'opinion d'un antiraciste. La démocratie, ce sont des valeurs, et dans ces valeurs, il y a l'égalité des individus, il y a la fraternité, ce sont les fondements de notre République. Donc moi, je leur dis, ces idées-là ne sont pas admissible. Ça, c'est la première chose. Et je les combats. Et moi, je sais que c'est... On me dit que ce n'est pas bien parce que électoralement, ceci, cela. Ce n'est pas mon sujet. Il faut assumer ses valeurs et ses convictions. Et moi, je ne transige jamais avec ce qui est, pour moi, la négation même de ce que nous sommes, de ce qu'est la République française, de ce qu'est notre démocratie, c'est-à-dire l'aspiration à l'égalité et l'idée qu'il n'y a pas aujourd'hui de lecture raciste à avoir de notre société. Et puis le deuxième point, quand même, parce que j'entends beaucoup de choses, c'est j'essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on en vient sur les immigrés. Et on voit souvent que c'est une colère qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, quand quelqu'un vous explique que le chômage est la faute des immigrés, ce n'est pas vrai. Le problème aujourd'hui du chômage, c'est qu'on ne partage pas le travail. Le problème de la pauvreté, est-ce que c'est la faute aujourd'hui de ceux qui ont l'AME? Est-ce que c'est la faute des étrangers à qui on donne parfois de quoi survivre? Non, aujourd'hui, c'est le problème du fait qu'on ne partage pas la richesse. Et la richesse, elle n'est pas détenue aujourd'hui par des gens qui ont immigré. La richesse, elle est détenue par des grandes fortunes, par des grands capitaux. Elle est détenue par des lobbies, par des multinationales. Elle n'est pas détenue par des étrangers. Donc, il faut là aussi, ou en tout cas, elle est détenue par des riches étrangers, évidemment, mais elle n'est pas détenue par ceux qui aujourd'hui fuient la guerre ou la misère et qui migrent dans notre pays. Donc, c'est cela qu'il faut rappeler sans cesse. C'est l'appel à la fois des valeurs et de la raison.
Quand des intellectuels parlent d'insécurité culturelle en France, qu'est-ce que vous leur répondez ?
Pour moi, ce ne sont pas des intellectuels parce que c'est un concept qui n'a pas de sens, selon moi. Et que ceux qui jouent à instrumentaliser ainsi les angoisses réelles et légitimes de nos concitoyens. Encore une fois, je distingue celui qui instrumentalise de celui qui ressent cela, parce que quand on ressent quelque chose, moi je ne crois pas que tous les gens qui votent Le Pen soient racistes. S'ils en viennent à cela, c'est parce que, y compris, nous n'avons pas été capables de produire des réponses politiques en face. Mais opposer la souffrance du chômeur blanc du périurbain à la souffrance du jeune maghrébin de banlieue parisienne, ceux qui font ça savent très bien qu'ils racontent n'importe quoi, et ce sont des cyniques.
Et pourquoi ils le font précisément, Benjamin Lucas? C'est parce que
c'est toujours plus simple. Regardez Donald Trump.
C'est trop difficile de résoudre la crise sociale.
Oui, parce qu'ils ne veulent pas. Alors, parce qu'il y a deux choses. Parce qu'ils ne veulent pas résoudre la crise sociale. D'abord, parce que vous savez, ça a toujours été l'alliance objective du grand patronat et du fascisme. C'était vrai dans les années 30. C'est parfois vrai. Mais d'ailleurs, c'est Monsieur Roux de Bézieux du MEDEF qui a invité Marion Maréchal Le Pen il n'y a pas longtemps. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais elle a été invitée aux journées d'été du MEDEF. Donc, quand on ne veut pas remettre en cause qu'est la richesse, quand on veut pas que les citoyens et que, j'allais dire, la classe laborieuse, la majorité de nos concitoyens regardent où est la richesse, eh bien, on essaye de les diviser entre eux. C'est une technique vieille comme le monde. Et puis oui, c'est aussi le choix de la simplicité. Regardez Trump. C'est toujours plus simple de jouer des peurs que de jouer de la raison et de l'intelligence collective. C'est plus simple. Mais à la fin, on y perd tous.
C'est pour cette raison que c'est difficile aujourd'hui pour la gauche, puisque on est dans une société où finalement, ça n'est pas la raison qui l'emporte, c'est le populisme. Vous essayez de convaincre avec des arguments rationnels.
Pas seulement, mais moi j'admets qu'il y a une part évidente d'idéologie dans ce que je dis. Moi, je crois à une vision du monde qui est celle du partage, qui est celle de la fraternité. Je crois à une vision du monde qui est celle du progrès partagé, de l'écologie, de la transition écologique. Donc les difficultés de la gauche, elles ne viennent pas. Ce serait trop simple de se dire, il y a d'un côté les rationnels. Vous avez des gens de droite très rationnels. Par exemple, je crois qu'Emmanuel Macron est très rationnel. Emmanuel Macron, il met en place un projet politique qui est le projet historique du libéralisme, qui est rationnel et qui est légitime de son point de vue. Non, les difficultés de la gauche, elles tiennent à l'exercice du pouvoir dans lequel elle s'est fourvoyée, où elle a été trahie par une partie des siens qui étaient en responsabilité. Elle tient sa difficulté à sa division évidente, qui est aujourd'hui le principal obstacle auquel nous sommes confrontés.
Alors, l'Adil Kra, Benjamin Lucas, a publié un sondage qui montre que 4 musulmans sur 10 estiment avoir été victimes de discrimination en France. Une manifestation contre l'islamophobie a eu lieu le 10 novembre dernier. Elle a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que le regard de la société française est plus dur qu'auparavant vis-à-vis des musulmans ?
Je ne sais pas ce qu'il en est dans la société. Ce que je sais, c'est qu'il y a aujourd'hui une offensive raciste et islamophobe d'un certain nombre de ce que vous appeliez tout à l'heure des intellectuels, ou en tout cas, on dirait des prescripteurs d'opinion, relayés par une partie de la classe politique, malheureusement y compris à gauche, et c'est cela qui m'inquiète beaucoup, et par des grands médias dans ce pays. Quand Monsieur Zemmour a libre antenne sur CNews, par exemple, voilà un moyen de renforcer aujourd'hui l'islamophobie, le racisme et la haine, et l'homophobie et le sexisme, parce que Zemmour, il a toutes les casquettes. De ce point de vue-là, c'est un ultra-cumulard. Bien, tout cela est renforcé. Et c'est cela qui m'inquiète. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, des opinions comme celle-ci, des Zemmour, il en a toujours existé. L'extrême droite, c'est une famille politique ancienne dans notre pays. Et elle existera toujours, parce qu'il y aura toujours un camp de la haine. Ce qui a changé, c'est que ces idées, avant, elles étaient d'abord réprimées. Elles ont été tolérées. Elles ont été légitimées. Aujourd'hui, c'est pire, elles sont encouragées. On a le sentiment qu'il y a une volonté d'un certain nombre de médias d'avoir le facho de service toujours sur le plateau pour faire le buzz. On a l'impression qu'il y a une volonté de certains à gauche qui, pour montrer qu'ils sont républicains, ont le besoin d'avoir des propos qui sont très 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 limites sur ces questions-là. Donc,
mais alors,
moi, c'est ça qui m'inquiète.
Faire le buzz, pour le coup, ça fonctionne, puisque on a appris que CNews était devenue, grâce à Éric Zemmour, la première chaîne info de France. C'est quand même inquiétant pour ceux qui dénoncent cette idéologie.
C'est inquiétant, c'est pour ça, moi, je crois que la gauche et les écologistes ont le besoin de s'unir, de se rassembler et de mener la bataille culturel. Avant même de songer à la bataille électorale, il faut que nous remenions la bataille des mots, la bataille des concepts, la bataille des valeurs. Et c'est pour ça que je suis frappé quand il y a une marche contre l'islamophobie, ça devrait être le réflexe premier de tout le monde à gauche de dire j'y vais. Peu importe s'il y a des gens pas fréquentables dans la manif, peu importe si dans le texte ceci cela, il y a voilà, c'est d'avoir des réflexes. La gauche doit retrouver ses réflexes, doit retrouver ses valeurs, et la gauche et les écologistes doivent reprendre cette bataille culturelle. Regardez Marion Maréchal Le Pen, elle ne s'y trompe pas. Elle ouvre une grande école. Regardez-les, ils sont partout dans les médias. Les pseudos éditorialistes de poubelles actuelles, pardon, de valeurs actuelles, ils sont invités comme experts partout, etc. Une enquête a démontré que, par exemple, sur la question climatique, les médias, les chaînes d'information invitaient plus des climato-sceptiques que des experts et des scientifiques. Tout ça nous démontre que nous avons une contre-offensive à mener. Et il faut pas justement qu'on soit toujours dans la défensive, il faut que nous menions une contre-offensive et que face au discours et à la vision du monde raciste et fermée qui est aujourd'hui développée dans la société, il faut que nous on affirme un projet. Moi je pense qu'il se résume d'une façon très simple. Nous sommes ceux qui, quand nous voyons des richesses, des savoirs, des pouvoirs, des ressources naturelles, nous voulons les partager. Je crois que c'est la société du partage, notre meilleure réponse à la société de la haine de Monsieur Zemmour.
Alors Génération a cette ambition d'être un des partis politiques qui va mener cette bataille culturelle. Est-ce que vous vous en donnez les moyens? Vous êtes un petit parti politique avec encore peu d'élus, peu de moyens?
Oui, mais aujourd'hui, tout le monde est faible à gauche. Et c'est peut-être notre force collective. C'est puisqu'il n'y a plus personne qui est hégémonique, c'est-à-dire qui peut imposer sa loi aux autres, peut-être que nous allons enfin avoir l'intelligence de nous rassembler. Génération n'a pas vocation à être au cœur de tout, à être... voilà, ce serait d'ailleurs bien présomptueux de ma part que de l'affirmer. Mais nous voulons être une des pierres de la maison commune de la gauche et des écologistes. Une des poutres de cette nouvelle maison, de cette refondation de la gauche et des écologistes. Mais encore une fois, si il y a à l'élection présidentielle qui vient... 2, 3 ou 4 candidats de la gauche et de l'écologie, ce sera Macron-Le Pen. Et à la fin, on aura Le Pen. Le meilleur moyen de préserver notre démocratie et de permettre une véritable alternative écologiste et sociale dans notre pays, c'est que la gauche et les écologistes se rassemblent. Donc ça suffit aujourd'hui,
donc,
les divisions stériles.
Donc là, vous êtes prêt à faire votre mea culpa sur votre attitude durant les élections européennes, Benjamin Lucas.
C'est pas la même chose, les élections européennes. C'est une élection proportionnelle. Les élections européennes...
Benoît Hamon aurait pu s'effacer au profit de Yannick Jadot, qui l'avait fait lors de la présidentielle.
Peut-être, mais nous avons essayé, mais les écologistes n'ont pas à ce moment-là entamé des discussions sérieuses avec nous. Ce que je sais, c'est que les élections européennes, c'est une élection proportionnelle. Donc, il est légitime que chacun puisse s'y exprimer. Et je crois qu'il fallait passer par un temps dans l'histoire de la gauche où chacun, pas se compter, mais où chacun exprime des thèses. La politique, c'est aussi parfois assez noble, c'est affirmer des idées. Et nous avions sur la question européenne trop peu de temps pour régler nos désaccords. Parce que moi, je suis pour l'unité, vous l'avez compris. Et je pense que en 2022, il faut faire cette unité, sinon ça ne sert à rien d'aller à la bataille. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que cette unité est simple à faire et qu'il suffit de claquer des doigts. Il suffit pas de mettre des partis autour de la table.
Il faut travailler déjà.
Il faut travailler sur le fond. Il faut mettre des sujets en débat. Nous mettons la question du revenu universel en discussion. Il faut que nous trouvions les points de convergence et que nous assumions nos désaccords pour en parler. Et puis il faut que ça dépasse nos propres partis, parce que nos propres partis, même mis bout à bout, ils restent faibles. Il faut qu'il y ait une dynamique citoyenne et populaire qui l'accompagne, cette unité.
Alors, il y a une très belle occasion pour Génération de montrer cette volonté de rassemblement, ce sont les élections municipales. Est-ce que Génération va se présenter de manière indépendante dans les villes, ou bien vous allez participer à des scrutins avec la France Insoumise, avec les écologistes, avec le Parti Socialiste?
Oui, Génération, partout, essaye de contribuer à l'unité la plus large possible de la gauche et des écologistes. Sur la base de ces propositions. Oui, alors, je peux vous donner plusieurs exemples.
On pense à Beauvais, là, on pense à Roxane Lindy qu'on recevra bientôt.
Vous avez Roxane Lindy à Beauvais qui mène une très très belle campagne et qui a uni autour d'elle, toute la gauche et les écologistes, qui était une première en France à ce moment-là, toute la gauche et les écologistes, mais nous avons d'autres candidats qui font aussi l'unité autour d'eux ailleurs en France. Et puis parfois, souvent, nous ne sommes pas en tête de liste, mais nous contribuons à des dynamiques unitaires. En tout cas, nous ne partons pas seuls, nous ne partons jamais seuls. Nous sommes aux côtés d'Éric Piolle, le maire sortant écologiste de Grenoble, pour lui permettre d'être réélu maire et pour participer à sa prochaine majorité. Voilà, il y a des exemples comme ça. Nous sommes aux côtés de Johanna Roland, vous voyez, je vais prendre tous les camps, la socialiste à Nantes. Voilà, nous sommes dans certains endroits avec des insoumis, etc. En tout cas, nous essayons à chaque fois de créer les conditions du rassemblement les plus larges possibles pour l'emporter.
Depuis son échec aux élections européennes, Benoît Hamon se fait très discret. Si j'ai bien regardé, son seul message politique récent, c'est le soutien affiché à Ali Rabé, candidat aux élections municipales à Trappes, une ville qui est chère à Benoît Hamon. Est-ce qu'il interviendra durant ces élections municipales dans d'autres villes?
Écoutez, c'est à lui. Moi, je ne suis pas.
Vous êtes le porte-parole de Génération Pape
Benoît
Hamon.
Je ne suis pas son porte-parole. Il n'a pas besoin de porte-parole, Benoît Hamon. Il s'exprime avec son talent et ses convictions tout seul. C'était légitime et normal qu'il s'engage aux côtés d'Ali Rabé à Trappes, puisque Benoît Hamon a été le député de Trappes, qu'il est très proche d'Ali Rabé, qui est d'ailleurs, j'en profite pour le dire ici, qui est un excellent candidat et qui est parmi les figures qui compteront, à mon avis, dans la gauche de demain pour rebâtir et pour repartir à la conquête. C'est cette génération dont nous avons besoin, et je souhaite qu'il l'emporte à Trappes avec le soutien de Benoît Hamon, évidemment. Je souhaite vraiment qu'il puisse l'emporter pour les trappistes d'abord, et puis aussi pour la gauche et les écologistes.
Dans les villes qui seront dirigées par des élus génération, ou en tout cas qui compteront des conseillers municipaux génération, est-ce qu'il sera possible d'appliquer certaines des propositions de votre mouvement, comme le revenu universel? Est-ce que ces villes seront un terrain d'expérimentation pour vos idées?
Alors, le revenu universel d'existence, c'est une mesure qui n'est pas à proprement parler municipale. Donc, il peut y avoir des dispositifs d'expérimentation. Je crois que oui, il y aura ce genre de choses. Mais nous portons beaucoup de propositions sur la gratuité des transports, sur les tarifs sociaux pour un certain nombre de services publics locaux, sur la végétalisation des villes. Vous citiez la campagne de Roxane Lundy. Elle veut, par exemple, planter des milliers d'arbres à Beauvais, qui est une ville qui manque d'arbres. Donc oui, nous allons mettre en œuvre des politiques. C'est pour ça que nous voulons être élus. C'est pas pour avoir des élus. Vous savez, avoir des élus pour avoir des élus, ça n'intéresse personne. Il y a aujourd'hui quelques vieux partis peut-être qui veulent conserver des élus pour affirmer des positions de pouvoir. Mais je crois que la réalité, c'est que si nous voulons être crédibles, il faut que les politiques publiques que nous mettons en œuvre soient conformes à ce que nous proposons.
L'écologie sera au cœur de cette campagne électorale au municipal pour Génération.
Au-delà de ça, l'écologie sera et est au cœur de notre avenir pour qu'il y ait un avenir. Un avenir à notre planète. Vous savez, moi j'ai 29 ans, je suis dans l'âge où on commence à envisager d'avoir des enfants et où, objectivement, la question écologique, elle n'est plus gadget, elle n'est plus accessoire. Je veux que les enfants que j'aurai peut-être, sans doute, demain, grandissent et vivent dans un monde respirable.
Vous n'êtes pas de ceux qui ironisent sur Greta Thunberg?
Absolument pas. Alors pareil, on peut partager, on peut aimer, pas aimer, on peut trouver qu'elle ferait mieux de faire ceci ou faire cela. Enfin, tout ce qui contribue à éveiller les consciences et à mener la bataille sur le changement climatique est bon à prendre. Et Greta Thunberg, de ce point de vue-là, me plaît beaucoup plus que ses détracteurs.
Une question précise: à Paris, est-ce que Génération soutiendra la future candidature d'Anne Hidalgo, ou bien vous pourriez choisir les écologistes ou la France insoumise, représentée par Daniel Simonet et Vicage Dourasso?
Eh bien, Génération est un mouvement démocratique, ce sont donc les adhérents de Génération qui seront amenés à se prononcer. Moi, je ne suis pas parisien, mais il me semble que c'est dans les heures qui viennent, ou dans les jours qui viennent, en tout cas, une décision sera prise. Ce que je sais, c'est que dans les cas que vous évoquez, les choses sont envisageables. Ce que j'espère, c'est qu'au second tour, Anne Hidalgo et David Béliard seront rassemblés pour que cette ville reste une ville de gauche. Pour ce qui est du choix de Génération au premier tour, il sera fait par les militants de Génération.
Alors ce samedi,
à Paris. Et je ne suis pas parisien, donc je ne fais pas d'ingérence.
Alors ce samedi, une manifestation contre les violences faites aux femmes aura lieu dans la capitale. Lundi prochain, le gouvernement fera connaître ses conclusions sur cette question. Génération se veut un parti politique résolument féministe. Est-ce que Génération participera à cette marche de nous toutes? Et quelles mesures concrètes attendez-vous pour que cesse ce fléau?
Oui, Génération y participera, et nous attendons que, là aussi, le gouvernement revoie ses ambitions à la hausse, et nous attendons, comme souvent, au-delà des mots, des actes concrets. Mais la ministre de la Justice a reconnu que l'État n'en faisait pas assez. Je crois qu'il faut prolonger l'investissement massif de la société dans ce sujet.
Dernière question, Benjamin Lucas. J'ai vu que Génération participe à ce que vous appelez un Big Bang de la gauche écologiste. De quoi s'agit-il?
Bien, il s'agit, au lendemain des élections européennes, d'une initiative prise par Clémentine Autain et Elsa Fossillon, qui sont députées, l'une députée France Insoumise, l'autre députée du Parti communiste français, qui dit, voilà, il est minuit moins deux pour la gauche, minuit moins deux aussi, je le crois, moi, pour la démocratie, et donc il est temps de sortir de nos logiques de chapelle, de nos querelles intestines, et il est temps que la gauche et les écologistes relèvent la tête et partent à la bataille. Et ce que j'aime dans le Big Bang, moi, j'intervenais lors d'un meeting à Limoges, il y a quelques jours, jours, cette semaine même, pour le Big Bang, c'est qu'on ne se contente pas de parler entre responsables politiques. Il y avait là des gilets jaunes, il y avait là des soignants, il y avait là des syndicalistes, il y avait là des migrants qui nous ont fait part de leurs difficultés, il y avait là des étudiants qui nous ont fait part de leur quotidien. C'est l'idée que la gauche, elle ne pourra pas se rassembler uniquement par les partis politiques, mais qu'il faut les deux choses. Les mouvements politiques qui se mettent autour de la table et qui font l'unité, qui mettent de côté leurs égos et leurs querelles, tout en débattant évidemment du fond, et puis évidemment le débordement citoyen pour faire cette unité de façon populaire.
L'espoir pour vous, c'est que de ce Big Bang naisse un espoir à gauche pour 2022.
Du Big Bang et de toutes les autres initiatives qui viendront, elles sont toutes bonnes à prendre. Vous savez, quand la gauche, elle se mobilise tout entière ensemble pour ADP, pour un référendum, elle contribue aussi à cela. Chaque combat commun est bon à prendre. Le Big Bang est une initiative à laquelle nous contribuons évidemment, et toutes les autres sont les bienvenues, et nous en prendrons nous aussi dans les jours à venir. Nous en avons d'ailleurs déjà pris.
Merci Benjamin Lucas, je rappelle que vous êtes porte-parole de Génération. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.